Deutsche Welle, magazine environnement.
Une édition spéciale aujourd'hui consacrée à la COP23. Et nous avons ici avec nous en studio une des participantes à cette conférence, en la personne de Mme Aissatou Diouf, porte-parole du réseau Climat Développement, une organisation qui rassemble des ONG africaines et internationales. Mme Diouf, bonsoir.
Bonsoir.
En studio avec moi pour vous poser quelques questions. Mon collègue Kossivi Tiassou, bonsoir de nouveau.
Oh, bonsoir, Fréjus.
Alors, Madame Diouf, ça va, ça se passe bien ici à Bonn? Vous n'avez pas trop froid? La température a considérablement chuté.
Il y a une grande différence entre ici et le Sénégal. Je pense que quand je quittais mon pays, il faisait 37 degrés. Donc voilà, la canicule, une très forte chaleur. Donc voilà.
Alors, bienvenue avec les 8 degrés qu'affiche le thermomètre aujourd'hui depuis ce matin.
Moi, je veux m'intéresser à la température. Température au Sénégal en ce moment, est-ce normal? 38 degrés en ce moment.
Je pense qu'il serait un peu déplacé de dire que c'est dû au réchauffement climatique, parce qu'il faut des études sur une longue durée pour dire que voilà, la hausse des températures que nous connaissons au Sénégal sont dues au réchauffement climatique. Mais ce que nous avons observé cette année, c'est une très forte chaleur qu'on n'avait pas vue ces 5-10 dernières années au Sénégal, avec très peu de pluviométrie notée cette année. Donc on peut penser que c'est lié au changement climatique et c'est ressenti très durement par les populations sénégalaises.
Est-ce que vous pouvez nous donner deux autres faits marquants qui vous font dire que les changements climatiques, c'est, ou bien les effets des changements climatiques, c'est une réalité au Sénégal?
Mais je pense que nous, en fait, quand nous venons dans les négociations, nous venons raconter un vécu, le vécu de nos communautés. Pour nous, les changements climatiques, c'est pas demain, c'est maintenant. On vit avec les impacts déjà. Mon pays, c'est un pays côtier, donc avec la mer. Nous notons déjà l'avancée de la mer, donc l'érosion côtière. Dans la zone de Saint-Louis, qui est considérée patrimoine classé de l'UNESCO, il y a des villages qui n'existent plus, qui ont été complètement engloutis par la mer. Je peux donner l'exemple du village dénommé Dounbabedjeye, mais également le village de Pilotbar. Donc pour ces communautés-là, quand on parle de changement climatique, c'est maintenant, parce que ces communautés vivent déjà avec les réalités du réchauffement climatique et tout ce que cela importe comme impact. Donc déplacement de ces communautés, des gens, des plus jeunes sont obligés de quitter leur famille pour aller dans la capitale, parce qu'ils n'ont plus de revenus. Certains dépendaient de la pêche, la mer avance, ils n'ont plus d'habitat, donc ils sont obligés d'aller chercher de quoi vivre ailleurs.
Voilà des informations concrètes, mais merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure de phénomènes comme El Niño, des phénomènes climatiques de ce genre qui certainement vont se multiplier. En tout cas, c'est une alerte des Nations Unies. On a assisté à une vague de sécheresse en Afrique de l'Est avec beaucoup de populations contraintes à la migration. Alors concrètement, ici à Bonn, que veulent les Africains qui participent à cette conférence? Est-ce que les Africains vont demander, comme on l'a souvent entendu, des moyens pour s'adapter au réchauffement climatique?
Nous voulons plusieurs choses et nous sommes là pour demander plusieurs choses. Déjà, il faut rappeler que 2 ans après l'accord de Paris, les négociations climatiques entrent dans une nouvelle phase qui est plus technique. L'accord de Paris, c'est le grand cadre. Maintenant, il faut définir comment mettre en œuvre ces grands principes dont les États se sont engagés à mettre en œuvre. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes venus rappeler qu'il faudrait que les États respectent leurs engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, déjà. Également appuyer les États en développement et les petits États insulaires à mettre en œuvre les contributions déterminées au niveau national. Donc cela implique des financements. Donc les États africains sont là également pour réclamer les financements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ces contributions déterminées au niveau national, donc enclencher un développement sobre en carbone, mettre en place des politiques d'adaptation pour appuyer ces communautés qui vivent déjà avec les impacts du changement climatique. Donc aujourd'hui, on est là pour demander des avancées, des actes concrets. Nous voulons des solutions maintenant. Et on sait que cette COP, c'est une COP intermédiaire, que 2018 sera une COP importante où on fera le premier bilan à travers le dialogue de Talanoa, donc le dialogue de facilitation. Donc nous sommes aujourd'hui ici pour rappeler aux pays développés qu'il faut qu'ils avancent vraiment sur le grand sujet.
Justement, si vous me permettez, une petite question. Alors cette COP se déroule ou intervient intervient quelques temps après que Donald Trump, le nouveau président américain, a annoncé que son pays se retirait du pacte. Est-ce que c'est une préoccupation pour les Africains qui, comme vous venez de l'indiquer, s'attendent à des moyens financiers?
Effectivement, la sortie de Donald Trump aura des incidences financières, notamment au niveau de la participation des États-Unis au niveau du Fonds vert climat. Donc il y a 2 milliards de dollars à chercher ailleurs, 2 milliards de dollars qui devaient être la contribution des États-Unis au niveau du Fonds vert climat. Mais au même moment, nous avons vu une volonté politique au niveau international où l'ensemble des chefs d'État des pays développés ont réaffirmé leur engagement et leur volonté politique à donner corps à cet accord-là. Donc nous, nous y croyons. Et on pense que même aux États-Unis, on a vu les acteurs non étatiques, les collectivités locales dire que même sans Trump, ils vont continuer à participer à l'effort collectif. Donc nous, on se dit, avec ou sans Trump, nous allons mener ce combat-là et avec les gens qui ont envie de participer à cet effort.
Oui, avec ou sans Trump, après Paris et Marrakech, les négociations sur le changement climatique entrent, vous venez de le dire, dans une phase technique et qui devrait traduire en actes concrets les engagements pris lors de la COP21 à Paris. Est-ce que vous y croyez?
On n'a pas le droit de ne pas y croire. Pour nos communautés que nous sommes venus représenter
mais on
ici.
Voit, on a constaté que les négociations sont dures, il y a toujours des points d'achoppement.
Oui, il y a des points d'achoppement, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a vu une entrée en vigueur précoce de l'accord de Paris. Je pense que c'était pour la première fois qu'un traité international ait vu une entrée en vigueur aussi rapidement. Cela a montré l'engagement des États et les États ont compris que voilà, il y avait une urgence climatique qui était là et qu'il fallait qu'ils apportent des réponses. Donc je pense que cela a suscité cet engagement-là. Maintenant, oui, on peut dire que les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on aimerait, mais on est là pour rappeler que voilà, il faudrait qu'on avance, il faudrait qu'on trouve des solutions concrètes et que c'est pour cela que nous sommes là. Donc on y croit jusqu'au bout. Nous ne devons pas ne pas y croire pour nos communautés qui sont affectées et nous pensons que la Convention climat nous offre cette opportunité-là et offre l'opportunité-là aux États pour pouvoir engager ces discussions-là et trouver des actes concrets. Donc nous, nous sommes là pour rappeler que c'est urgent d'agir et nous espérons que les États qui sont là également sont conscients qu'il faut dès maintenant apporter des réponses, surtout d'ici 2020. Il ne faut pas attendre 2020 pour commencer à mettre en œuvre l'accord de Paris. Il le faut dès maintenant, sinon on n'atteindra jamais les objectifs, par exemple, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'Organisation météorologique mondiale nous dit que nous sommes déjà à 1,1 degré de réchauffement. Donc pour atteindre les 1,5 que le groupe Afrique a porté au niveau de la COP21, nous avons très peu de temps. Donc il faut agir maintenant et nous espérons qu'à la sortie de cette COP23, on aura déjà quelque chose de palpable et des engagements concrets pour que en 2018, à travers le dialogue de facilitation, qu'on trouve le cadre qui pourra permettre de mettre en œuvre concrètement l'accord de Paris.
Oui, Fugis, que non, moi j'ai fait une remarque tout à fait particulière, c'est que entre même les pays africains, dans le groupe, au sein du groupe africain, il n'y a pas l'unanimité sur beaucoup de points. Surtout l'ordre de financement, le Congo, la République démocratique du Congo, qui souhaite que soit financée la préservation de ses ressources naturelles comme les forêts. Un pays comme le Niger qui veut plutôt voter pour l'adaptation. Et est-ce qu'un jour, on aura, est-ce qu'ils arriveront à accorder leur violon sur ce sujet?
Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que de plus en plus, le groupe Afrique parle d'une seule voix. Je pense que défendre les forêts et défendre l'adaptation ne sont pas contradictoires. Le groupe Afrique regroupe l'ensemble des pays africains avec des priorités qui peuvent être différentes, mais avec un seul objectif, défendre les communautés à la base. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'objectif premier du groupe Afrique, c'est de porter l'ensemble des préoccupations portées par l'ensemble des États que le groupe représente ici. Donc, vous avez parlé des pays qui sont au niveau du Sahel, qui sont fortement touchés par la sécheresse. On voit ailleurs que ce sont des zones qui ont des forêts et qui ont besoin de protéger leurs forêts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le groupe Afrique, en son sein, regroupe des négociateurs qui portent ces sujets clés-là et qui essaient de se battre sur l'ensemble de ces fronts. Et je pense que depuis ces dernières années, depuis la COP21 et bien même avant, et jusqu'à aujourd'hui, le groupe Afrique essaie de parler d'une seule voix parce que nous savons que nous devons être unis. Ils savent qu'ils doivent être unis également pour pouvoir gagner ce combat-là.
Alors, nous avons encore deux petites minutes avant la fin de cet entretien. Peut-être que, Madame Diouf, vous avez quelques informations à partager avec nous. Que font déjà les Africains pour accompagner l'effort de réduction du réchauffement climatique?
Vous savez, dans le cadre de l'accord de Paris, l'ensemble des pays, des États sont venus avec des engagements. Donc, c'est ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Et dans ces engagements-là, on trouve deux parties, ce qu'on appelle les parties conditionnelles et les parties non conditionnelles. Et dans les contributions déterminées des pays africains, nous avons vu que les États disent leur volonté d'enclencher un développement sobre en carbone, donc de développer les énergies renouvelables sur le continent. Mais également, il faut rappeler que sans appui, sans soutien financier et technologique, on ne pourrait pas exploiter le potentiel du renouvelable sur le continent africain. Donc, et je pense qu'également, les États africains n'ont pas attendu les pays développés et les négociations internationales pour agir sur le terrain.
Et ils font quoi?
Et ils font beaucoup de choses déjà. Je pense quand il y a des inondations et des catastrophes naturelles, avant que les États, l'aide internationale arrive, les États africains prennent sur le budget pays, sur le budget national, pour répondre à ces défis-là.
Et au détriment d'autres priorités.
Mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand il y a des catastrophes naturelles, il faut agir. Et quand il faut agir, ils n'attendent pas. Ils mettent la main à la poche et après, ils demandent l'aide internationale. Et aujourd'hui, il faut rappeler que le changement climatique est un coût additionnel au développement que les budgets de nos États ne peuvent pas supporter. C'est pour cela que nous sommes là, au nom de la justice climatique et au nom de la justice sociale. Rappelons que nous ne sommes pas responsables de ce réchauffement climatique-là. Nous sommes là également pour rappeler que les pays historiquement responsables de ce réchauffement climatique doivent enfin prendre leurs responsabilités et appuyer les pays en développement et les pays africains plus particulièrement à faire face à ce réchauffement climatique, aider nos communautés à s'adapter, mais nous aider également à avoir une autre trajectoire de développement basée sur le renouvelable, donc le développement sobre en carbone.
Merci Aïssatou Diouf.
Merci à vous, Kossi Vitiassou. Merci Madame Aïssatou Diouf. Je rappelle que vous êtes de la société civile africaine et que vous participez également ici à Bonn à la 23e édition de la conférence des parties où l'on discute donc des moyens de mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015, c'est bien ça. Merci et bonne suite de conférences.